Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du livre de Tahiti, lire en Polynésie. Public, lecteurs, auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumuora, le banyan de la Maison de la Culture de Papeete, pendant 4 jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre bleue vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série « Rencontres au pied du banyan ».
Conversation sur le thème « À la recherche du nous en Nouvelle-Calédonie » avec Louis-José Barbançon, Wallace Cotra et Frédéric Olen. Échange modéré par Charlie Rémy.
Bienvenue à tous donc, pour cette petite séance de conversation, une causerie on pourrait dire, et c'est sur un thème qui est à la fois intemporel, ça fait au moins une quarantaine d'années qu'on disserte sur ce thème, depuis beaucoup plus longtemps probablement, et puis c'est aussi un thème qui est très d'actualité, à la recherche du nous en Kanaky et en Nouvelle-Calédonie. Alors vous aurez reconnu dans cet intitulé le titre bien sûr d'un ouvrage qui est présenté ici au 22e salon du livre, c'est celui qui est présenté par l'historien Louis-José Barbançon qui est avec nous, et c'est un livre qui se base entre autres sur un entretien avec Wallace Cotra qui est aussi avec nous, et puis avec nous avons donc un autre intellectuel calédonien, un monsieur de la culture calédonienne, Frédéric Olen, qui est auteur, bien sûr. Je crois que vous avez présenté ici cette année votre dernier ouvrage, qui est aussi publié au Vent des Îles, et puis qui est éditeur aussi depuis une trentaine d'années déjà, peut-être un petit peu plus. On aura peut-être le temps de revenir sur le parcours de chacun. Je vous passe les longues présentations. Je crois que l'intérêt, c'est de parler du fond. Et on va commencer par parler de l'intitulé de ce débat, à la recherche du nous. D'où vient ce terme, Louis-José? C'est vous qui l'avez utilisé récemment, d'abord dans une tribune, et puis après, ça a donné le nom de votre ouvrage. À la recherche du nous, qu'est-ce que ça représente pour vous, cet intitulé?
Bien, au départ, le livre devait être une compilation des textes que j'ai écrits depuis 1976, tout sauf des textes d'histoire, tant que ce n'est pas un livre d'historien. Et le livre devait s'appeler « Une irrémédiable insularité ». Et au fur et à mesure des entretiens avec Wallace, on s'est aperçu, tous les deux d'ailleurs, que ce titre-là, le premier titre, ne convenait pas. En fait, les entretiens, il y a toujours un échange qui se fait, et c'est autre chose qui est sorti. Et ce qui est sorti, c'est voilà, la recherche du « nous ». Ça vient aussi de la conclusion d'une tribune que j'ai faite dans Le Monde juste avant le dernier référendum, dans lequel je terminais en disant « La seule réponse au oui et au non, c'est le nous ».
C'est de là que ça vient. Ce que vous disiez, Wallace, et je vais vous passer le micro, je vais être obligé de me lever, puisque on a un micro en moins. C'est que pour vous, à la recherche du nous, c'était à la fois un petit peu le résumé du parcours de Louis-José Barbançon, mais aussi le résumé des efforts collectifs calédoniens de ces dernières décennies, finalement.
Oui, je crois que comme on est dans un pays, en Nouvelle-Calédonie, paradoxal. C'est-à-dire que notre histoire, c'est l'histoire des deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, comme une sorte d'assignation à résidence de chacun. C'est-à-dire, il y a les Kanaks, les indigènes, les Bagnards, etc. Chacun dans son coin. Et ça, c'est notre histoire. Une histoire violente aussi. Mais aussi, c'est une histoire de, à chaque fois, essayer de trouver un nous. Le premier accord de Matignon, le de Nouméa, c'était en 56. Et puis ensuite, après, il y a eu l'accord de Nouméa, Nainville-les-Roches, etc. Donc à chaque fois, nos élus, nos responsables, ont essayé de trouver une solution pour nous, quoi. Et voilà. Et qu'aujourd'hui, ce qui m'a marqué comme journaliste, c'est de dire on est peut-être arrivé à un moment où il y a une exaspération des jeux. C'est-à-dire que où chacun s'affirme dans son coin, etc. Et qu'il y a une sorte de vide dans le nous, quoi. Alors c'est vrai que comme Gabi a bien expliqué tout à l'heure, que quand on mange, c'est le nous, mais dans la société, c'est très difficile. Et donc, ça m'a intéressé de voir dans l'itinéraire de José, tout ça résumé. À la fois, notre capacité à dire comment, à essayer de mettre des ponts, et puis, etc. Et puis notre capacité à, comment, à s'affirmer soi-même et à exclure l'autre. Donc voilà un petit peu le contexte de ce livre.
Ah, y a toujours eu dans le débat calédonien des termes comme ça pour désigner finalement la recherche du collectif. On a parlé de destin commun, on a parlé de vivre ensemble beaucoup. Est-ce que vous faites une différence entre ces termes-là et la recherche du nous? Wallace Cotra et puis après peut-être Frédéric Hollène, parce que c'est une affaire de lettres. Peut-être chacun a une vision différente sur la question.
Je reviens un peu sur l'itinéraire de José. Et ce qui m'a frappé, c'est que, par exemple, c'est très très puissant, destin commun dans l'accord de Nouméa. C'est ce qui est presque notre petite constitution à nous. Hein. L'accord de c'est très important, y compris la recherche d'une identité commune. Mais quand je refais avec José son itinéraire, il y a une très très grande violence. J'ai senti quelqu'un qui était très blessé par, dans son itinéraire, à essayer de chercher le nous. Donc on est dans ce paradoxe-là, qui est de dire... L'objectif est dans l'espace public, on parle beaucoup de destin commun. Et puis, dans l'espace privé, où les gens, finalement, qui vivent, ben, c'est très difficile de rechercher l'espace commun. Alors, on verra tout à l'heure dans le débat qu'il y a des espaces où tout ça se fait, c'est de se construire, etc. Mais aujourd'hui, c'est compliqué.
Frédéric Hollène, cette recherche du nous, alors vous aussi, vous parlez dans vos ouvrages de la violence de l'histoire. Le dernier, le monde flottant, ça parle de ça. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu. Vous parlez aussi, quelque part, de la recherche de nous. Il y a un vrai antagonisme entre la dureté de l'histoire calédonienne et les défis d'aujourd'hui.
Je ne sais pas s'il y a un antagonisme, mais c'est vrai que c'est une constante, cette violence du monde et du réel. Espèce d'impasse continuelle qu'on essaye, une impasse qu'on essaye de dépasser en Nouvelle-Calédonie, d'abord par des mots, et ça a été ensuite avant des actes, mais j'espère que ça ne va pas rester que des mots. Destin commun, oui, on le voit dans le relationnel de tous les jours, dans les familles au sens large, mais on ne l'avait pas vu forcément. D'un point de vue politique, de manière très, très affirmée. Et puis, à chaque fois qu'il y a un référendum, et Dieu sait qu'on a dépassé maintenant, semble-t-il, cette question des référendums, en tout cas, c'est ce que nous dit l'État. Du point de vue des Kanaks, c'est évidemment très différent. Eh bien, on était sur des positions très tranchées. On ne pouvait pas être dans le destin commun au moment où il faut se prononcer par oui ou par non. Comme le disait très justement José dans sa chronique du Monde, il n'y a qu'une réponse, si on doit choisir entre le oui et le non, nous, ce sera le nous.
Et on est dans un débat où chaque parti finalement définit le nous, qu'on soit indépendantiste, qu'on soit loyaliste. L'État aussi, à son propre discours finalement, définit le nous d'une façon différente. Pour trouver une définition commune, c'est là que les intellectuels rentrent en jeu. C'est ça votre mission, Louis-José ?
Il faut peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau dans le débat. Alors c'est quelque chose qui existait, qui a déjà été dit, on ne l'a pas inventé. Mais... Dans le livre, là, vous allez voir, il y a peut-être 200, 300 personnes qui sont nommées, qui sont souvent d'ailleurs nommées par leur prénom. Parce que en insularité, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça à Tahiti, nous existons d'abord par nos relations, avant d'exister par nos diplômes, avant d'exister par notre place dans la société, par notre réussite sociale, nous existons par ceux que nous connaissons. On connaît un tel, pas pour ça qu'on est obligé de l'aimer. Les rapports amoureux au niveau insulaire sont toujours exacerbés. Mais nous existons par nos relations. Et c'est cela qu'on essaye de mettre en avant et qui est nouveau dans le débat pour la définition du nous. Si vous voulez, normalement, un nous, c'est une stratification sur des siècles et des siècles qui se fait et il y a une sédimentation qui construit une identité. Ça, c'est l'histoire de la France. Ça, c'est l'histoire de la Polynésie. Ça, c'est l'histoire de la société et de la civilisation kanak. Mais aux Antilles, par exemple, ou nous, hein, les gens de Nouvelle-Calédonie qui arrivons d'ailleurs, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'il n'y a pas une souche directe. Nous, on n'est pas. Nous, on vient de Corse, on vient de Bretagne, on vient d'Auvergne, etc. Donc, en fait, on ne peut pas nous comparer à des Bretons qui existent depuis des siècles, où il y a une stratification. La Bretagne, elle a une histoire. Charlemagne, il n'a jamais réussi à conquérir la Bretagne. Donc, nous, on est obligés d'exister, les Calédoniens, parce qu'on va prendre aux autres. C'est-à-dire, c'est un peu la formation de. Comment que Édouard Glissant définissait par les Antilles, c'est-à-dire cette identité, comme ils venaient tous de pays africains différents, qui se fait par alchimie et non pas par sédimentation. Bon, moi, mon côté provocateur, je suis très content quand même que pour définir les Calédoniens blancs, les Caldoches, comme ça s'appelle, même si j'aime pas le mot, on est obligé d'aller chercher, comment dirais-je, une formation qui avait été pensée et dite pour des Noirs, quoi. Ceux des Antilles. Voilà, ça me fait. Voilà, il y a un côté provocateur aussi dans ce côté-là.
Louis-José, si vous n'êtes pas Caldoche, qu'est-ce que vous êtes alors ?
Pardon. Non, mais le terme de Caldoche est un terme que ma génération considère comme un terme péjoratif, parce que le mot hoche, c'est toujours péjoratif dans le côté français. D'autre part, la différence, c'est que ce n'est pas nous qui disons que nous sommes des Caldoches. C'est les Farani qui disent que nous, on est des Caldoches. Nous, on n'a jamais dit ça. Ça ne vient pas de nous, ça vient des autres. Ce n'est pas pareil du tout.
Wallace, ce que dit finalement Louis-José, c'est il a parlé d'un nous qui ne doit pas être seulement. Qui ne doit pas gommer les jeux, finalement, hein, c'est un peu ça. Hein, et qui doit unir, mais pas remplacer. C'est ça le frein à ton
problème. Je reviens un peu sur le livre, l'histoire de José. José, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de raconter l'histoire de cette migration européenne, finalement, les bagnards. Et par exemple, son premier, son mémoire était sur l'Iphigénie, le premier bateau avec 250 bagnards à l'intérieur, et il a travaillé sur chaque personne, etc. Donc, pour essayer de. Voilà. D'où viennent les racines de cette communauté. Et ce qui est intéressant par rapport à ta question, c'est de dire finalement, les racines, c'est très important, mais l'identité, c'est pas les racines. L'identité, c'est la relation. Et ça, je trouve que c'est ça qui est parmi les nouveautés, c'est ça qui est important dans notre pays, de dire ça. Parce que chacun, comme on est challengé et on est bousculé, regarde ses racines. Et puis, les Kanaks réaffirment les mythes, et puis, etc., notre enracinement dans le pays, oubliant d'ailleurs que dans les sociétés Kanaks, nous, le clan qui est à côté de chez nous, à Tiga, alors que Tiga, c'est petit, c'est un clan de Tonga, et puis que dans nos populations, il y a eu des femmes européennes qui se sont mariées, etc. Mais ça, c'est notre histoire, et c'est notre fierté. Mais dans la... Voilà, on affirme d'abord ce que nous sommes. Et quand tu écoutes parfois les jeunes de Tiga, dans l'impression que Adam et Ève est né à Tiga, que c'est là où on a été les... voilà, d'un côté, et puis de l'autre côté, les Européens finalement ils se projettent en Europe, ils se projettent pas chez nous. Et José a été un des premiers à dire: je suis un Océanien d'origine européenne, je suis pas un Européen de Nouvelle-Calédonie. Voilà, et ça permet de dire, mais finalement, ce qui est important, c'est notre relation. Nous, les Kanaks, avec cette vieille civilisation, mais on a croisé cette communauté depuis 160 ans, 170 ans. Mais comment on exprime notre culture aujourd'hui ? Comment ? D'autant plus qu'on fait des choses ensemble. On crée des villes ensemble. On est dans les écoles ensemble. On a réfléchi, nos historiens, par exemple, ont travaillé sur comment on considère notre histoire. La violence de notre histoire. Mais c'est notre violence partagée. C'est comme ça ? Ben, finalement, il faut qu'on apprenne ensemble. Et donc, c'est ça, là, je pense que par rapport à ta question, ce qui apparaît dans le débat, mais ça, c'est nous, la société civile, qui portons ça. C'est de dire, notre identité, c'est la relation.
ça apparaît dans le débat et ça prend de l'ampleur, ça marque le débat, ou alors c'est parce que le constat que vous faites de dire chaque communauté finalement réfléchit sur ses racines, sur sa vision et son histoire, on pouvait le faire déjà il y a 30 ans, il y a quand même des choses qui ont évolué ces 30 dernières années, Frédéric Hollen.
Oui, mais moi je suis comme vous, Charlie, c'est-à-dire que je suis un lecteur de ce livre. J'ai pas été évidemment associé. J'en profite d'autant mieux que j'ai ce regard extérieur, même si j'ai mes deux compatriotes à mes côtés. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, je peux vous le dire, parce qu'on n'en a pas parlé alors qu'on en discutait, c'est que d'abord, c'est ton étonnement, ta stupéfaction, Wallace, d'une part, et d'autre part, toi, c'est ton rêve. Parce que les bons écrivains comme toi, José, je pèse mes mots, on a tous des rêves. Donc commençons peut-être par la stupéfaction de Wallace. Tu vois là où je veux en venir ou pas ?
Non, mais je t'écoute.
Alors, grande fut ta stupéfaction que quand tu interviewais ce jeune homme, eh bien, il ne te répondait pas « je suis ni calédonien ni caldoche », il te répondait « je suis nouméen ». Très important, parce qu'on peut être d'un quartier, d'une région, on peut être comme les Kanaks du pays profond, d'une tribu, et il y a certains individus, moi j'en fais partie, mais c'est un autre quartier où j'ai vécu, c'est je suis un Nouméen, et à l'échelle mondiale, ça veut rien dire. Le mot qui est forgé sur le nom d'une ville, j'ai appris qu'à Tahiti, d'ailleurs, on disait les Wainés ou les Papeétés et qu'il n'y avait pas de mot spécifique pour dire, pour exprimer ceux qui habitaient l'endroit. Donc, premièrement, et d'autre part, ton rêve, et là j'ai une belle anecdote bretonne, ton rêve, c'est que, dis-moi si je me trompe, un jour tu sois détenteur d'un passeport où il est marqué ni français ni kanak, mais calédonien. Voilà.
Enfin, j'ai dit que quand j'avais 13 ans, 14 ans, mon rêve, c'était ça, d'avoir un passeport sur lequel il est écrit calédonien.
D'accord.
Et je dis que peut-être qu'un jour, j'aurai un passeport sur lequel il y aura écrit kanak, comme j'en ai un aujourd'hui sur lequel il est écrit français, mais que pour moi, ça ne fait pas de différence. C'est-à-dire que je veux dire, c'est pas... Le fait de changer des mots sur un passeport, d'effacer puis de mettre un autre nom, que ça va changer ma façon de rire, ma façon de me mettre en colère, ça va changer mon accent, ça va changer mon être au monde, etc. Ça, ça va pas changer. Donc pour moi, c'est pas grave. Alors que pour certains, c'est une catastrophe de changer. Moi, je suis pas, comment dirais-je, je suis pas agressé par cela.
Ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'à l'issue d'une résidence d'écriture que j'ai fait il y a de nombreuses années en Bretagne, on m'a remis, ça m'a extrêmement touché. Au début, je pensais même que c'était une blague ou une galéjade, le passeport breton, avec tous les tampons de l'ARB, très beau passeport vert celtique. Et non, ce n'était pas une blague, c'était au nom de la République des Lettres, qui représente eux aussi, ils m'avaient décerné le passeport celte, le passeport breton. Il me dit, au moins, tu pourras aller dans un pays frère, l'Écosse ou l'Irlande.
Wallace, ce que disait Louis-José à l'instant, c'est qu'il disait, on peut parler d'identité, mais pour vous, ça fait pas de... C'est, l'important, c'est pas vraiment le statut ou ce qui est marqué sur le passeport. Mais pourtant, dans toutes ces conversations sur l'identité, sur la recherche du nous, le vivre ensemble, quelle que soit la façon dont on l'appelle, derrière, il y a quand même ces questions sur l'avenir institutionnel de la Calédonie. Elle reste présente dans tous ces débats.
Oui, Wallace vient de vous expliquer que, voilà, là-bas, on arrive à être dans un syndicat ensemble. On arrive à être dans les équipes sportives ensemble, on arrive à être à l'école ensemble. Il y a plein de choses qu'on arrive à faire ensemble. D'ailleurs, quand on est ensemble, en général, on gagne. Alors, c'est quand on est séparés qu'on ne gagne pas. Mais on n'arrive pas encore à transformer ça sur le plan politique. Ça c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce n'est pas simplement une animosité. Les gens voudraient bien, mais... C'est quoi l'histoire de ce pays ? C'est une histoire très violente. Que ce soit l'histoire des bagnards, que ce soit l'histoire des petits colons. Il y a très peu de gens dans les colons. en profiter du système. Évidemment qu'il y en a. Pas dire le contraire. On connaît les noms, d'ailleurs, ils sont tellement peu nombreux qu'on connaît les noms. Donc c'est pas très compliqué. Mais c'est l'histoire des Vietnamiens, des Shandang, c'est-à-dire des gens qui s'appellent les pieds attachés. C'est l'histoire des Indonésiens, Orang Kontrak, ça veut dire les hommes contrats. Donc on voit bien, eux-mêmes, ils se désignent comme cela. Donc cette violence-là, pendant des générations, nous, on a été élevés dans l'idée que nos parents, nos grands-parents se sont sacrifiés pour que nous, on ait une bonne vie. Et c'est pareil aujourd'hui. Donc, quand on doit voter oui pour l'indépendance, on sait très bien que dans le cadre de l'indépendance, il n'y aura pas le même niveau, ni scolaire, ni social, etc. Et donc qu'il y a une génération qui va être sacrifiée. C'est très difficile pour nous de dire à nos enfants... vous allez de nouveau faire des sacrifices alors qu'on a été élevé dans l'idée, tous ceux que je viens de citer, que les sacrifices, ça y est, on les avait déjà faits. Dans le monde kanak, c'était tout à fait différent. Évidemment qu'il y a eu l'espoir de l'ascenseur social, évidemment qu'il y a eu des sacrifices, mais en même temps, il y a eu, pendant des années, sous des cases, autour du feu, etc., le fait de retrouver un jour un pays. Et ça, je veux dire, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, le sentiment de nationalisme, le patriotisme, parce que c'est pas autre chose que du patriotisme, c'est-à-dire retrouver la terra patria, la terre des pères. Vous pouvez pas dire aux Kanaks que la terre des pères, la terre de leurs pères, c'est la France. Ça passe pas. Vous comprenez, c'est ça. Donc le fait de faire voter oui ou non, c'est répondre à des questions angoissantes. C'est mettre les gens dans des situations d'angoisse. Et ça, c'est... Et les gens voudraient bien aller plus loin, mais... Je veux dire, à chaque fois, ils sont bloqués. L'ingénieur informatique Kana qui vous explique dans un repas ou ailleurs que l'indépendance, on n'arrivera pas à toucher tant d'argent. Quand vous avez fini avec lui de discuter pendant une heure ou deux heures, plusieurs jours, celui-là, il va voter non. Et puis il te dit, oui, mais quand je me retrouve dans l'isoloir, devant l'urne, je suis tout seul face à mon clan, face à mon peuple, face à mon histoire, et je vote oui. Mais comment vous allez arrêter ça?
Wallace, le poids des parents, le poids de la famille dans l'isoloir, l'angoisse de l'isoloir dont parlait Louis-José, vous le ressentez aussi?
Oui, mais je pense qu'il faut... on donne trop d'importance à la donne politique. C'est important, mais on donne trop d'importance à la donne politique parce que nous, on est en train d'expérimenter l'idée aussi des limites de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation est complètement bloquée en Calédonie. C'est très grave. Et le fait que le... Le référendum s'est fait sans les Kanaks, le FLNKS, et le fait surtout que le gouvernement ait nommé un représentant, voilà, ça perturbe les choses sont bloquées. C'est pour ça que je pense qu'il faut... Enfin, ce qui est intéressant dans le livre, c'est le fait qu'on essaye de penser notre avenir entre nous. Qu'est-ce que ça veut ? On ne peut pas faire un pays européen, français là-bas, c'est clair. Si c'est ça le projet... Ben, c'est pas possible. Mais on peut pas faire aussi un pays uniquement kanak, d'autant plus qu'ils ont fait des... Voilà. Donc comment on fait? Et je reviens sur un mot que disait Joseph sur la créolité de le concept qui a été développé par les Antilles. Et notamment Glissant, qui a finalement sublimé tout ça. Mais la créolité est née de l'esclavage et de la disparition des Caraïbes. C'est-à-dire d'un drame où il n'y a plus rien. Et qu'à partir de rien, ils ont recréé une civilisation avec ce qu'ils ont trouvé sur les bords de la route, sur les rives, avec tout ça, avec les mots ici, les gestes. Voilà, ils ont créé ça. Ce n'est pas le cas pour nous. Et c'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas la créolité, peut-être qu'il faut parler d'océanité. C'est-à-dire que là, il y a des vieilles cultures qui sont là, polynésiennes ici, mélanésiennes là-bas. Et comment nous, on fait le dialogue? Et comment on construit les choses? Je crois que c'est à nous, et notamment nos intellectuels, tout ça, de réfléchir à ça, de dire, et finalement, qu'on se sente bien là-dedans, parce que, voilà. Et je pense que si on se sent bien dans cette communauté-là, dans ce nous-là, ensemble, on va trouver un débouché politique à nos pays. Voilà. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, même s'il n'y en a pas de charrue chez nous, dans le Pacifique. Voilà. Mettons pas la charrue avant les bœufs. L'objet de ce livre, c'est ça, c'est de dire... Mais qui sommes-nous? Et comment on fait? Et j'étais frappé par le fait que José, ça l'a marqué, ça. Dès qu'il est né, lui, eh bien, il a en face de lui Jean-Pierre Ouémama, qui est un Kanak. Ensuite, après, il va à la conception, il y a les Pidjor, il y a tous les trucs, tous les Kanaks, les Kaldoches qui ont dirigé notre pays. Et puis il va là-bas, etc. Et puis il va dans le sport, bouffe, et se, voilà, il va. Donc c'est ça. Et on n'arrive pas à traduire ça ensemble. Et puis il y a une autre chose qui me touche, parce que c'est intime. C'est que 3 ans après sa naissance à José, il y a le drame de la Monique, où son père disparaît avec 126 Calédoniens. Et dans les 126 Calédoniens, il y a des Kanaks, il y a des Caldoches, il y a des Vietnamiens, il y a des gendarmes, il y a des instituteurs, il y a des pasteurs, il y a tout ça, quoi.
La Monique, un caboteur qui a coulé en revenant de marée vers la Grande Terre, pour ceux qui...
Voilà. Et quelque part, je trouve que lui, il a été confronté tout de suite à ce que ça peut être le nous. C'est-à-dire, ces gens qui sont morts ensemble, ils ont la même sépulture, et qui sont nous, quoi. Et d'ailleurs, nous, on continue à les célébrer. Parce que c'est ça, ils ne sont pas partis. Et je crois que ce combat-là, c'est ça. C'est-à-dire, on va rechercher dans aujourd'hui ce que nos vieux ont laissé, en partant, quoi, en nous laissant comme ça. Et je crois que c'est ça, c'est difficile, mais c'est ce que j'ai perçu dans cette démarche de José. Et voilà, quoi.
Frédéric Hollène, je vous sentais, vous aviez envie de réagir tout à l'heure, c'était peut-être sur le « il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ».
Non, pas exactement. On a peu de certitudes en Nouvelle-Calédonie. Ce dont personnellement je suis sûr, ce dont je suis certain, c'est l'importance de ce qu'on lègue à nos enfants. On ne peut pas... Alors, l'histoire, la mémoire, c'est bien, mais si ça nous oblitère au point de nous empêcher de vivre, c'est beaucoup moins bien. Est-ce qu'il y a lieu de, comme ça a été fait, parce que c'est ça la puissance aussi des rêves politiques, de léguer à ses fils ou à ses filles ses rancœurs anciennes et les haines du passé? C'est toute la question calédonienne. C'est comment on élève nos enfants, dans quel esprit? Si c'est un esprit de revanche sur l'autre, ou si c'est un esprit où on dit on laisse tout le monde vivre sa vie et se développer comme il faut.
C'est intéressant parce que vous dites ça face à un historien qui a eu de cesse d'aller fouiller dans des parties de l'histoire que la Calédonie ne voulait pas vraiment avoir face à elle, notamment celle du bagne. Hein. On voulait pas en parler et vous êtes allé fouiller pour la mettre devant les yeux des Calédoniens.
Oui, mais en la déterrant, il lui enlève un petit peu de sa force parce que ce qui est dit est moins violent par définition. Ce qui est exprimé, ce qui sort de la terre. Les Kanaks disent qu'il ne faut pas réveiller les morts. C'est dangereux. Ça peut porter à atteinte à notre être. Mais l'historien pense le contraire. Il n'y a pas de sujet tabou. Surtout pas.
Ce travail, il est fait, Louis-José. Est-ce que l'histoire est sur la table aujourd'hui, ou il reste encore beaucoup à faire en Calédonie pour que...
La question de l'histoire se pose différemment. Nous, notre problème, c'est... Est-ce que nous, la Nouvelle-Calédonie... Nous sommes un simple épisode de l'histoire de France dans l'océan Pacifique. Ou est-ce que nous avons une histoire commune avec les Kanaks? C'est ça la question qu'il faut résoudre. Parce que si nous sommes un simple épisode de l'histoire de France qui s'est transporté à 17 000 km dans l'océan Pacifique, eh bien, l'histoire Kanak, elle continue toujours. Elle date depuis 3000 ans. Nous, on date depuis 150 ans là-bas. Ça veut dire que le risque... que l'on soit un simple hoquet, comme dirait Christophe Sand, un épisode de l'histoire kanak, une parenthèse dans l'histoire kanak. Ce risque-là, il existe. Il existe. Hein, il y a bien d'autres exemples dans l'histoire. Hein. Je veux dire, en Palestine, les royaumes latins de croisés, ils durent 100 ans ou 150 ans ou un peu plus, et puis ils disparaissent. Si on n'arrive pas à faire comprendre qu'il y a une histoire commune dans ce pays, la Monique fait partie de cette histoire commune, mais tous les écrivains, là, tous, font aussi partie de cette histoire commune. Il y a le bataillon du Pacifique que vous connaissez bien aussi. Il y a plein de choses qui font partie, mais encore faut-il que l'on puisse dire qu'il y a une histoire commune, et on se trouve toujours devant ce problème. Moi, j'ai Jean-Christophe Guay en face de moi, qui a dirigé comment dirais-je, la publication de l'Atlas de Nouvelle-Calédonie. Et c'est très bien les problèmes que l'on a rencontrés, y compris par rapport au comité scientifique qui se trouvait à Paris, qui à un moment a supprimé le mot calédonien de tout l'Atlas. Quoi. Donc je veux dire, si vous voulez, le « nous », à la différence de la Polynésie, en Polynésie, le « nous », pour quelqu'un d'extérieur, il y a une évidence du « nous ». Même s'il y a des nuances entre les Marquises, les Tuamotu, même s'il y a des nuances sociales, même s'il y a des nuances entre les Tinetu, etc., ce qui rassemble, ce qui unit, les facteurs d'unité sont beaucoup plus forts que les facteurs de division. Et le « nous », il est évident. Ce matin, par exemple, quand on écoute le discours d'Eremoana, puis le discours du haut-commissaire, ben on voit bien que c'est deux « nous » qui sont différents. Ce n'est pas dire pour ça qu'il ne faut pas respecter l'un ou pas respecter l'autre. C'est, tous les deux sont respectables, tous les deux, il faut aller l'un vers l'autre, s'ouvrir, mais c'est quand même deux « nous » différents. Ils n'expriment pas du tout la même chose. Même quand ils portent le même nom, le discours du haut-commissaire, ce n'est pas le style de Chantal, quand même. Voilà. Donc on voit bien tout de suite, hein, je veux dire, il y a des évidences. Chez nous, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que l'échéance là, comment dirais-je, de la répartition démographique, l'échéance de la population, la présence d'une population métropolitaine importante qui risque de changer, qui a déjà changé. La puissance électorale, donner des résultats différents dans les élections, tout ça, c'est un traumatisme difficile à remettre. Mais qu'est-ce qui me fait, moi, encore de temps en temps, être optimiste? C'est que nous, les insulaires, et vous, les Polynésiens, vous connaissez ça mieux que moi, nous, les insulaires, nous savons tous que le renouveau, ça vient de l'extérieur. Parce que nous connaissons la limite de nos îles. Nous connaissons la limite de notre création. Donc on sait que le renouveau, à un moment, va venir de l'extérieur. Ça ne peut pas venir autrement. Puis en même temps, en tant qu'insulaire, eh bien, on vit dans le syndrome du tsunami. C'est-à-dire de cette vague qui va tout emporter. De cet afflux de population qui risque de tout changer. Parce qu'une île, c'est toujours une harmonie. Il faut bien comprendre ça. C'est un équilibre et c'est une harmonie. Et l'arrivée d'une population trop grande risque de détruire l'harmonie. Et la difficulté pour un intellectuel, pour un gouverneur, pour un gouvernant, pour un décideur dans une île, c'est qu'il est toujours sur cette ligne de crête entre l'indispensable équilibre et la nécessaire harmonie. Et c'est toujours très difficile. Et c'est ça le débat qui se pose en Calédonie. Il n'y aurait pas le débat sur le corps électoral si derrière, il n'y avait pas aussi cette angoisse-là dont on vient de parler. Et parce que le « nous », nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous, on aimerait bien avoir un « nous » ouvert aux autres. Mais le « nous », d'abord, ça permet de se circonscrire. Qui est « nous » ? Et à partir du moment où on sait qui est « nous », on sait qui vote. C'est-à-dire qu'il faut un code de la citoyenneté, etc., qui définisse. Et ensuite, on décide ensemble. Et c'est ça la difficulté. C'est ça la vraie difficulté.
Ça veut dire que quelque part, il faut exclure pour un minimum pour pouvoir rassembler.
C'est ce qu'on espère maintenant. Dans toutes les bonnes idées, vous savez toujours, il y a des effets pervers. Et il y a des effets bénéfiques. Évidemment, le risque, c'est d'avoir un nous qui exclut les autres. On ne peut pas dire que le risque n'existe pas. Il existe, évidemment. Tout dépend de qui va le porter. Et c'est là que nous, on a un rôle, les écrivains, les intellectuels, les historiens, etc. C'est là vraiment que devrait être notre vrai rôle. C'est là que devrait être le rôle de l'éducation. C'est là que devrait être le rôle du journalisme, quand même, un peu.
J'espère.
Un petit peu.
Il y avait quand même une idée qui était intéressante. J'ai pas repéré le monsieur qui était l'auteur de l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est ça. On aura l'occasion. Bien sûr, ceux qui ont des questions peuvent les poser. On peut même commencer maintenant. Il y avait cette idée de, encore aujourd'hui, c'est difficile de poser l'histoire calédonienne sur un papier. Est-ce que vous voulez réagir ou pas particulièrement? Plus tard, très bien. Très bien. Mais ça, Wallace, vous pouvez y répondre aussi. La difficulté pour la Calédonie et pour les Calédoniens
d'avoir leur histoire en face, c'est toujours une réalité. Alors que il y a quand même eu un travail pendant 3-4 décennies sur ces questions.
Je pense que c'est plutôt à José de dire ça. Mais c'est vrai qu'on a des visions différentes de l'histoire. On n'a pas les mêmes héros selon les communautés, on a les pays, etc. Mais tout l'enjeu, et depuis 30 ans, c'est d'essayer de fabriquer des choses communes. Et je disais tout à l'heure que, par exemple, c'est assez exceptionnel pour la Calédonie. C'est que les historiens de notre pays, avec toutes les sensibilités différentes, ils ont travaillé sur nos manuels d'histoire. Pour que dire, mais finalement, Éloi Machoro, c'est qui Éloi Machoro? Il faudrait qu'on puisse raconter à nos enfants, quelle que soit leur sensibilité, puis quelle que soit leur communauté, qui est Éloi Machoro, etc. Donc ce travail-là, il est en train d'être fait, progressivement. Mais ensuite, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où la situation politique est bloquée pour l'instant, le débat doit être aussi dans la cité, quoi.
Vous avez dit tout à l'heure, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, donc il faut du temps. Il y a quand même un malaise, surtout dans la partie la plus jeune de la population calédonienne, je crois, que ce soit des jeunes Kanaks, des jeunes Caldoches, des jeunes de n'importe quelle communauté, des jeunes métis aussi. On peut peut-être parler de ça après, parce que dans cette grille de lecture, on est toujours assez... assez cadré, mais il y a des métis aussi, bien sûr. Il y a des jeunes qui trouvent que le temps est long, justement, qui n'étaient pas là au moment des accords en 88, qui étaient jeunes au moment des accords de 98. Et depuis ce moment-là, on leur dit attendez, ça va se passer, vous allez voir. Et c'est peut-être aussi difficile de leur dire il va falloir encore attendre 10 ou 20 ans pour pouvoir trouver quelque chose.
Sur la jeunesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les accords ont été faits, c'était pour dire que ce n'est quasiment pas les mêmes personnes qui, dans 30 ans, vont voter, puisque c'était une nouvelle génération. Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près 1000 décès par an, et puis il y a à peu près 4000 naissances par an. Donc il y a un différentiel de 3000. Bon, ben, faites sur 30 ans, de ceux qui ont participé au premier référendum, il y en a 30 000 qui sont décédés déjà. Et puis il y en a 40 000 qui sont nés entre-temps et qui sont arrivés à l'âge de 18 ans. Donc ce n'est pas du tout les mêmes qui votent. Et je reviens à ce que disait Frédéric tout à l'heure, le drame de notre génération qui a réussi, notre génération a réussi beaucoup de choses. Elle a vraiment réussi à maintenir la paix, développer le pays, faire du rééquilibrage, créer des villes. C'est extraordinaire ce que notre génération a fait. Mais il y a des choses qu'elle n'a pas su faire. Et elle n'a pas su faire parce que on est dans nos rancœurs, on est dans nos angoisses. C'est très difficile à surmonter. Donc, ce que nous n'avons pas su faire, il faut laisser la possibilité à la jeune génération de trouver. Nous, on est au bout de notre imagination. On est au bout de notre faculté de création. Il en faut d'autres. Mais je voudrais quand même bien préciser. Moi, je ne fais pas un hymne à la jeunesse, là. Parce que si c'est pour avoir des jeunes qui répètent ce que disaient les grands-pères... Ça sert à rien du tout. Ce qu'on a besoin, c'est de jeunes qui innovent, pas de jeunes qui répètent ce que disaient les grands-pères. Parce que ça, on s'en sortira pas. Hein.
Frédéric Hollène, en tant qu'éditeur, vous
avez... Oui, parce que moi, j'ai le vaccin. Enfin, j'essaye de concevoir un vaccin. C'est pas la Covid, mais c'est pire que ça. Il y a évidemment le tsunami permanent dans les îles, parce que le tsunami, on le craint, mais en fait, les tsunamis invisibles, c'est peut-être les pires. Oui, le vaccin sur la contamination au mauvais rêve. Quelqu'un me disait ce qui nous tue, tu sais, c'est quoi? Je dis non, tu vas me le dire. Eh bien, c'est qu'on soit entouré de choses et d'êtres trop moches. La transfiguration de ça, la version de ça, du point de vue de la littérature, c'est qu'on n'arrive pas à inventer des héros communs. Les uns ont leurs héros, souvent anciens, souvent complètement fantasmés, et les autres ont des héros plus modernes. C'est marrant, par exemple, en Calédonie, on croirait que les grands footballeurs, les grands sportifs, les champions du monde, d'ici ou de là, ce seraient les héros de la jeunesse. Pas du tout. Jamais. À aucun titre. C'est dommage. C'est vrai que les footballeurs, c'est quand même pas le parangon de l'humanité, mais ça pourrait donner une base commune. On a vu un pays, la France, qui a gagné le championnat du monde, comme vous savez, et qui est monté comme un seul homme sur les Champs-Élysées, toutes ethnies confondues. Je ne me trompe pas. Mais non, ça ne relève pas de ça, la solution dont nous avons besoin. Et est-ce qu'il faut trouver les vrais héros dans les livres ? Oui, mais il n'y a pas assez de lecteurs. Et en plus, les lecteurs, c'est la moitié de l'humanité, ce sont des femmes. C'est ce que m'avait dit un éditeur il y a longtemps. Tu verras, en fait, il n'y a pas de lecteurs, il y a des lectrices.
Sur cette histoire des héros communs, en fait, si je prends le grand héros kanak révolutionnaire, qui est d'ailleurs surdimensionné, parce qu'il est aussi créé par Rivière, par Lemire, par d'autres, c'est-à-dire l'officier français, comme Jules César, crée aussi Vercingétorix, forcément, il crée aussi Hatay. Mais en même temps, Hatay, c'est une réalité. C'est un vrai combattant, etc. En fait, il y a les deux, puisque l'histoire est toujours écrite, de toute façon, par le vainqueur. Mais ma génération, Hatay, c'est un héros kanak. Et nous, notre but, c'est de faire en sorte que pour la génération qui arrive, Hatay, ça soit un kanak héros. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, comment dirais-je, c'est très facile chez les jeunes. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas tout notre background. Pour eux, ça leur pose pas de problème. Encore faut-il comment pouvoir l'enseigner, encore faut-il pouvoir faire passer les messages. Et ça, c'est pas si simple que ça, parce que notre gros défaut, d'un côté comme de l'autre, c'est qu'on transmet nos angoisses, on transmet nos colères, on transmet nos luttes à nos enfants. Et en faisant ça, évidemment, on leur transmet notre expérience, etc. C'est la transmission. Mais en même temps, comment dirais-je, on les bloque, on les empêche de trouver autre chose et d'imaginer autre chose. Et ça c'est vraiment le gros défaut que l'on a. Mais je pense que dans tous les pays, c'est à peu près pareil. Nous, c'est exacerbé parce qu'on est une île. Et puis parce que, comment dirais-je, voilà, il y a 260 000 habitants, il y a moins d'habitants maintenant qu'en Polynésie. Et qu'évidemment, je le disais tout à l'heure, les gens sont les uns, pas les uns sur les autres, mais quand il y a du sang qui coule, ben, tout le monde est touché, quoi, parce que tout le monde est famille. Donc après, il faut remonter cela. Il faut surmonter cela et remonter cela. Et ça, c'est notre génération qui l'a fait. Mais ça ne suffit plus. Maintenant, il faut aller plus loin. Et ça, nous, on ne pourra plus le faire.
Wallace Cotra, quand vous regardez la jeunesse calédonienne, quelle qu'elle soit, vous avez l'impression de voir une jeunesse qui est prête à renouveler le débat ou alors au contraire qui est un peu coincée dans les mêmes oppositions que leurs parents ?
C'est très contrasté, hein, parce que évidemment, il y a une partie de la jeunesse qui bouscule la société calédonienne et qui met des transversalités là où il faut, etc. Et voilà, mais je suis quand même inquiet, parce que la bipolarisation et la radicalisation peut venir de la jeunesse aussi. C'est ça, c'est-à-dire que finalement, ils vont aller encore plus loin que leurs parents. Et leurs parents qui ont vécu quand même 30 ans de co-gestion du pays. Et moi, je crois que, comme tu disais, José, tout à l'heure, il faut faire attention, quoi. La solution ne peut pas... On ne peut pas s'accrocher à la jeunesse parce que ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que demain, les combats de rue qu'on va avoir, ça peut être les jeunes. Donc, c'est d'où l'idée de construire quelque chose ensemble. Le fameux nous, et puis dire comment on regarde l'autre et comment on est fiers ensemble de l'autre, et puis, etc. quoi. Valoriser ce qu'on fait. Là, par exemple, on vient de perdre une grande dame de la littérature calédonienne, Dewe Gordé. Mais moi, je voudrais que ça soit là. C'est Césaire pour nous, pour tous les Calédoniens, quel qu'il soit. Je ne suis pas sûr que c'est encore ça. Mais nous, on va c'est ça l'enjeu pour nous, quoi, de partager cela.
ça passe donc des symboles, trouver des figures, des symboles, des héros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il nous reste pas énormément de temps dans ce débat, malheureusement, c'est pas fini, hein, mais j'aimerais bien quand même qu'on prenne quelques questions, même des remarques, si vous voulez, du public. Alors que vous ayez lu l'ouvrage de Louis-José de Wallès ou pas, sur la situation actuelle en Calédonie, sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose. Alors, attendez, je vais me lever pour voir s'il y a quelqu'un.
Question ou une réflexion pour prolonger le débat, hein, qu'importe. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, on va laisser nos intervenants terminer. Hein,
je suis sûr qu'ils auront à dire. Hein,
oui, c'est ça. J'en doute pas. Il reste 6 minutes, donc on vous laisse un petit peu ce temps pour interagir. Mais si vous ne désirez pas, on s'en occupe. Bon ? Ok, bah, tu peux repartir.
Alors, il y avait quand même une question que je me posais tout à l'heure, c'est est-ce que les termes du débat sont toujours les mêmes qu'en 88 quand on signe les accords de Matignon ou en 98 pour les accords de Nouméa, et notamment sur la structure de la population. Est-ce que on parle dans les accords, on parle des Kanaks d'une part et les victimes de l'histoire de l'autre. Il y avait déjà des métissages en Calédonie, on n'en a pas parlé pendant longtemps, ça a été secret. On voulait cacher qu'on avait une grand-mère Kanak, on voulait cacher de l'autre côté qu'on avait un grand-père bagnard ou quelque chose comme ça. Des métissages, il y en a plus aujourd'hui, c'est une réalité. Ça, qu'est-ce que ça change au débat? Le fait est qu'on ne peut plus réfléchir de la même façon, Louis-José.
Non, mais je crois qu'on essaie bien essayer de vous expliquer. Tous les débats sociaux en 30 ans, sociétaux, ont évolué. Ils ont plutôt évolué dans le bon sens. L'un vers l'autre, s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, etc. Ça, c'est vrai. Mais la question qui est posée, oui ou non, qui est une question, ce type de référendum qui est depuis la Constitution de 1958, vous comprenez que depuis 1958, le monde, il a évolué. Est-ce que ce type de question répond toujours à une situation du XXIe siècle, et en particulier à la situation de la Nouvelle-Calédonie? On ne trouve pas d'autre solution que de cliver les gens. Mais il y a... Non, alors, on va me dire... Attends, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire preuve d'imagination. Mais l'imagination, c'est... À partir du moment où on va se retrouver en face de juristes, on va se retrouver qui vont nous faire la démonstration que ce n'est pas possible, etc. Comme ils ont fait la démonstration à Éloi Machoro, c'était pas possible qu'il y ait un peuple kanak. Qu'est-ce qu'il a fait, Éloi? Il a pris un tamioc, il a coupé l'urne. Et puis il a dit non, c'est la Constitution française qui n'existe pas. Nous existons. Donc comment... Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut arrêter de se cacher derrière. Alors évidemment, on est tous admiratifs. On est tous les descendants, les héritiers de la République, des valeurs de la République et tout. On les défend, on sait. Mais là, il y a un moment donné où les valeurs, là, ce qui se passe, ne répond pas à la situation calédonienne. En fait, en Calédonie, il y a 4 grands groupes. Il n'y en a pas 2. Il y a ceux qui veulent la dépendance tout de suite, ceux qui disent jamais la dépendance, et puis il y a tous ceux qui sont là pour dire non, pas tout de suite, ou oui, mais pas maintenant. Voilà. Or, il n'y a aucune possibilité juridique de traduire ça. Pourtant, on est quand même dans un monde où la démocratie a beaucoup évolué. On parle de démocratie, participative, on interroge les gens, on fait beaucoup plus de choses. Et pourquoi on ne changerait pas notre donne? Parce que vous comprenez, si le gouvernement français, le président de la République, les responsables de la France étaient devant un résultat où il y aurait 4 questions qui soient posées, eh bien, ça serait beaucoup plus simple pour lui, pour expliquer d'un point de vue républicain aux Français, si jamais le non jamais à la dépendance était minoritaire, eh bien, on prépare, on fait comme à Hong Kong en 1997, ça devait être l'indépendance, on prépare. Ceux qui veulent rester, ils restent, ceux qui veulent partir, ils partent, etc. Mais au moins, on sait où on va et on prépare quelque chose. Mais ça, c'est vous vous rendez compte combien il faut changer le logiciel de ce qui existe pour en arriver là? C'est quasiment impossible. Le seul moyen que les Kanaks ont trouvé en 84 et 88, c'est de se révolter. Parce que quand Éloi, il a brisé l'urne, eh bien après on a changé la Constitution. Voilà. Mais il y a eu 70 morts entre-temps. Voilà.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a un manque d'imagination au pouvoir pour...
Mais c'est pas facile pour eux non plus, parce que c'est quand même toute la tradition française qui se veut être quand même un modèle dans le monde, qui donne des leçons à la Russie, qui donne des leçons à la Chine, qui donne des leçons partout. Donc, comment faire? Mais ils vont se retrouver devant le problème, parce que le risque d'une insurrection générationnelle en Nouvelle-Calédonie existe. Il ne faut pas croire qu'il n'existe pas. Moi, je ne suis pas là pour faire un appel à la violence, etc. Ce que je sais, c'est qu'en tant qu'historien, lorsque vous produisez les mêmes causes, ben vous obtenez les mêmes effets. Et en Calédonie, en ce moment, il n'est pas sûr que le gouvernement ait bien conscience qu'il est en train de remettre les mêmes causes en place. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète, parce que ça ne suffira pas de dire « juridiquement, on a raison ». L'histoire est forte.
Wallace, vous vouliez réagir, peut-être que ça ne va pas être loin d'être notre mot de la fin.
Ce n'est pas tellement mon truc, la politique, mais il faut dire que le problème clé au départ, c'est un problème colonial. C'est-à-dire que c'est un peuple qui dit ben, « je suis chez moi » et voilà. Donc il faut régler ce problème-là. Là, c'est un peu bloqué, mais il va falloir régler. La deuxième chose, avec l'expérience, enfin ce qu'on a vécu en dernières années, c'est qu'on se dit « le référendum a ses limites ». C'est-à-dire que est-ce qu'on construit un pays avec 51% l'indépendance ou pas l'indépendance? Voilà. Moi, je crois qu'il faut laisser les besoins politiques travailler là-dessus. C'est pour ça qu'il nous semble qu'il faut s'engager dans la société pour construire ce nous entre nous et discuter, se respecter, trouver un sens à notre vie commune et ne pas continuer ce qu'on a connu dans notre histoire, qui sont les assignations à résidence. C'est-à-dire chacun son parti, chacun son quartier, chacun sa classe sociale. Et pour finir, on va finir par dire chacun sa couleur. Et là, on est mort. Donc, je crois, et c'est pour ça que je dis que c'est important de creuser la notion d'océanité par rapport à la créolité. Nous, en Nouvelle-Calédonie, ça devient une priorité.
Merci beaucoup, Wallace Cotra, Louis-José, merci beaucoup aussi, Frédéric Hollen. Un peu dans le prolongement de ce débat sur l'océanité, je crois que c'est dimanche qu'il y a que vous animez, Wallace, une conversation un peu comme celle-ci, mais sur le vivre ensemble en Océanie, voilà. C'est bien ça. Et alors, je vais prendre les dates exactes parce qu'il y en a.
Il y a aussi samedi, oui. T'as un rendez-vous samedi. Aussi samedi, la présentation du livre, du coup, à la recherche du nous avec voilà. Avec eux deux. Donc, samedi, ce sera à 11h, 11h30. Voilà.
Il y a aussi une présentation de votre ouvrage, Frédéric Hollen, ça, je crois que c'est dimanche matin à 10h30, si je ne dis pas de bêtises. Et puis donc deux conversations, une sur l'Océanie et une autre sur le vivre ensemble en Polynésie. Ça, vous serez animateur dans celle-là.
Là, je vais écouter.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à tous d'avoir été là.
Juste pour aider à lancer le débat, la grande thèse de Wallace, c'est une phrase merveilleuse, c'est l'insulaire, c'est toujours celui qui réussit la synthèse entre la racine et l'horizon, parce que la racine nourrit et l'horizon sublime. Je vous remercie.
C'était la conversation sur le thème « À la recherche du nous en Nouvelle-Calédonie » avec Louis-José Barbançon, Wallace Cotra et Frédéric Hollen. Échange modéré par Charlie René.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.